franceinter.fr.
Bonjour, je suis Arnaud Montebourg et j'ai tué Ségolène Royal. Et j'approuve cela.
Donc, Montebourg va devoir choisir qui de Martine ou de François est le plus à gauche. Bon, c'est après tout pas plus compliqué que de savoir qui de Tom ou de Jerry ressemble le plus à un cheval. Voilà, voilà, merci, salut à tous les amigos, c'était HF du Havre, salut.
Petit répondeur, toi qui le prête chaque jour mon oreille pour écouter ceux qui m'émeuvent, ceux qui me font réagir, aujourd'hui je te prête ma voix. C'est le jour des commentaires des primaires, alors voici le mien. La surprise, c'est le troisième larron. Si au lieu de ne défendre que leur avenir personnel, les premiers et deuxièmes larrons défendaient le peuple de gauche, il suffirait qu'un des deux larrons se retire et de Montebourg serait engagé au deuxième tour. Que ce soit François contre Arnaud ou Martine contre Arnaud, c'est sûr, il y aurait un afflux de votants supplémentaires dimanche prochain et Arnaud l'emporterait. La perspective d'un vrai changement. Faute d'avoir encore un idéal, on peut bien avoir encore un rêve.
Oui, Daniel, c'est un message coup de cœur pour une journaliste audio de France Inter que j'ai eu la chance de rencontrer hier à Marseille pour les primaires socialistes. Je peux vous confier ma mallette et mon agra, m'a-t-elle demandé, et je les ai gardées sous ma table du bureau de vote, et je les ai surveillées comme la prunelle de mes yeux pendant plusieurs heures. Pendant ce temps, Isabelle Dor recueillait les témoignages d'électeurs et de militants sur son dictaphone. J'ai découvert ainsi qu'une journaliste audio, ça écrit beaucoup. Je l'ai vue assise dans un coin, un cahier sur les genoux, restituer tout ce qu'elle avait vu et entendu durant toute la journée. Je l'ai vu aussi debout, dans l'entrée de l'immeuble, faire son montage audio sur le Nagra, posé à même une tablette inconfortable, car nous n'avions même pas prévu de pièces un peu tranquilles pour ce genre de travail. Et ce matin à 8h, à l'antenne, j'ai entendu un son de 30 secondes d'Isabelle Dor sur cette journée de vote à la Fédération des Bouches-du-Rhône. C'était court, mais parfait. Isabelle, que je connais à peine, je vous embrasse.
Ah, salut l'équipe à Daniel et salut tous les AMG, c'est Didier de Gaillac. Je profite des informations de 6h sur France Inter, c'est-à-dire je les zappe. Je les zappe parce que on va encore en avoir une nouvelle tartine sur les primaires. Alors donc j'en profite pour vous rappeler que demain il y a une nouvelle primaire dans la rue. On vous demandera pas un euro, on vous demandera pas de signer, on vous demande simplement de descendre pour organiser le premier acte, l'acte primaire de la révolution qui s'annonce avec l'avènement du Parti Socialiste au pouvoir en 2012. Descendez dans la rue, nos potes de Fakir nous l'ont très bien raconté dans le numéro actuel. En avant Guingamp les enfants, tous dans la rue demain pour la grosse manif. Allez, ciao, bisous et vive la révolution.
Bravo à François Ruffin pour sa magnifique interview de Jean-Claude Trichet. C'était absolument magnifique, notamment lorsque Jean-Claude Trichet, dans la même phrase, explique que le consommateur européen veut acheter absolument ce qu'il veut. Et dans la même phrase, il dit si l'on veut de la création de l'emploi, il faut accepter d'avoir le meilleur rapport qualité-prix. Et on voit que dans la même phrase, on parle à la fois des produits et des travailleurs. Donc, puisque dans la deuxième partie de la phrase, il s'agit bien des travailleurs au meilleur rapport qualité-prix. Voilà, très intéressant. Bravo, à bientôt, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Florence au téléphone. Je reste bouche bée quand j'entends les journalistes qui sont vos collègues dire que Dexia est une victime de la crise. Faut quand même pas se foutre du monde, parce que les seules et uniques victimes, ce sont les clients qui ont fait des emprunts dans cette banque et qui remboursent tranquillement leurs prêts et qui vont se faire massacrer parce que quand ils y sont allés, on leur a dit « Mais faites-nous confiance, on sait ce qu'on vous vend, vous inquiétez pas. » Ils nous ont bien caressé les cheveux pour nous dire qu'on était protégés par Dexia, qui était une banque qui avait pignon sur rue et tout. Alors, de grâce, ne nous dites pas que Dexia est la victime, c'est nous les victimes.
Salut Daniel, les travailleurs, hommes et femmes des frondures du Patou à Ingrandes-sur-Vienne, entament leur 6e semaine de grève. Leur patron voyou, Montupé, leur propose une petite baisse de salaire de 25%, dont 15% pour les cadres et 0,5% pour le directeur qui empoche 1 million d'euros par an. S'il te plaît, ne les oublie pas. Numéro de téléphone du comité de soutien 06 35 29 09 06. On compte sur toi. C'était Alain de Saint-Sauveur.
Voilà, numéro du comité de soutien 06 35 29 09 06. 6 semaines de grève 06 35 29 09 06. Voilà, merci à tous pour ces messages. Alors aujourd'hui, on est tous à gauche. Hein. Oh, tous à gauche. Montebourg, on est formidable. Ce Arnaud Montebourg, on l'a toujours soutenu, nous, Arnaud Montebourg. Ouais. Et Martine Aubry aussi, on l'a toujours soutenu ici. Oh là là, on est... Oui, puis alors, François Hollande, il est pas mal aussi. Enfin, on est content, on est à gauche, gauche, gauche. Voilà, il faut faire très attention des jours comme... cela a pas s'enrhumer avec le vent que font les vestes qui se retournent. Mais nous, on va se mettre un petit peu à l'écart quand même aujourd'hui avec le monde diplomatique. C'est notre émission mensuelle avec le Diplo pour parler d'un certain nombre de sujets qui sont ou qui ne sont pas dans le numéro de ce mois d'octobre. J'oublie de vous dire que ce soir à des 19h à Paris, au Cabaret Sauvage, Parc de la Villette à Paris. Le Cabaret Sauvage, c'est au Parc de la Villette à Paris. Il y a le lancement de la semaine de commémoration du 17 octobre 1961, organisée par l'association Au nom de la mémoire. Alors il y aura dès 19h30 un accueil en musique, puis une suite de témoignages et d'interventions avec notamment Stéphane Hessel, Benjamin Stora, Edgar Morin, Mehdi Lalaoui, suivi tout ça d'un concert à partir de 21h30 avec notamment les Ogres de Barbac, Idir et beaucoup d'autres musiciens. Voilà, on se retrouvera, si vous le voulez, au Cabaret Sauvage. Donc aujourd'hui, c'est le Diplo, le numéro du Diplo de ce mois d'octobre, je vous signale tout de suite un papier dont on ne parlera pas, mais qui m'a passionné dans ce numéro. C'est un reportage sur les Naxalites en Inde. Vous vous souvenez peut-être qu'avec Guy, on avait consacré tout un reportage sur ce sujet. Eh bien, il y a des développements tout à fait passionnants dans ce numéro, mais il y en a bien d'autres. Auparavant, en tout cas, voici encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse-CJC au 01 56 40 37 37.
Ce lundi soir à 20h, réunion des AMG de Lille et du Nord. C'est la réunion d'entre les deux tours. Comment, Daniel ? Les tours jumelles ? Non, Daniel, les tours des primaires du PS. Faudrait que tu suives un peu l'actualité, là, Daniel, hein, ok ? Bon, écoute, je t'invite ce soir à 20h au Café Repère L'Imaginaire, dans le Vieux-Lille. Et les amis, ben, venez nombreux !
Salut à tous, c'est Daniel, c'est Pascal Dumont. Ce matin, sur votre antenne, j'entendais claironner Jean-François Copé sur la primaire socialiste en disant que seulement 4% des électeurs s'étaient déplacés et qu'après tout, ce succès était relativement négligeable. Bon, j'ai rien de particulier pour défendre la primaire socialiste, bien que ce soit une bonne idée, mais j'aimerais ramener M. Copé à des réalités plus terre-à-terre et qu'il fasse un peu le même calcul pour l'élection de son cher nain de jardin à l'Élysée et puis qu'il se rende compte par combien d'électeurs il a vraiment été porté à la fonction suprême. Ça le ramènera à des réalités plus terre à terre lui aussi. Salut à tous.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est la Basse J'y suis avec le monde diplomatique.
Flight number 2, arriving from...
Nous voilà avec le numéro de ce mois d'octobre du monde diplomatique 2011. Et on va commencer par une bonne nouvelle quand même, l'ivresse des possibles. L'ivresse des possibles. L'ivresse des possibles pour Serge Halimi, c'est la Tunisie. La Tunisie qui, le 23 octobre prochain, va s'élire une assemblée constituante. Mais il semble qu'il y ait beaucoup de candidats. Il y a 63 listes pour cette constituante. Et ça, ça se passe un peu moins d'un an après le suicide de Mohamed Bouazizi, qui a quand même entraîné un certain nombre de bouleversements. Alors, Serge Halimi va nous dire comment s'y repérer dans ces 63 listes et qui nous devons soutenir, sachant que nous sommes un peu loin des primaires tunisiennes.
Le 23 octobre, il va effectivement y avoir l'élection à l'Assemblée constituante tunisienne. Et c'est une assemblée dont les pouvoirs seront considérables, puisqu'il n'y a plus d'institution en Tunisie, qu'on est sous le régime du provisoire, avec un gouvernement provisoire qui n'a pas de légitimité démocratique, et que la légitimité démocratique viendra donc de cette assemblée qui va déterminer si c'est un régime parlementaire, présidentiel, quels sont les rapports entre l'Église et l'État, quels sont les rapports entre l'économie et le secteur public. C'est donc une assemblée qui a tous les pouvoirs et qui, pendant un an, va s'affairer à cette tâche. Alors, on demande aux Tunisiens d'élire une assemblée qui va faire beaucoup de choses, qu'ils ne comprennent pas tous toujours. Et eux qui ont l'habitude de se prononcer et d'élire à la quasi-unanimité un candidat unique, qui a été pendant très longtemps Ben Ali, doivent choisir, comme dans le cas de Bizerte, entre 63 listes. Alors on se dit, c'est magnifique, 63 listes, quel bonheur. La seule difficulté, c'est de s'y retrouver parce que très souvent, elles disent la même chose. Et quand on interroge les responsables politiques en Tunisie, parfois, il faut vraiment noter à qui on a parlé, parce que sinon, on peut faire une confusion entre les sociaux-démocrates, les libéraux, bon, ça, on a un peu l'habitude, mais d'une certaine manière, les islamistes aussi, les anciens communistes, grosso modo, ils disent tous, ça suffit le pouvoir autoritaire, le pouvoir d'un homme. Il faut donc des institutions avec un contre-pouvoir, des contre-pouvoirs, ce qui est très bien. Mais une fois qu'on a passé ce cap, ils disent économie libérale, de marché, avec un État stratège, avec des investissements publics qui seront redéployés des côtes vers l'intérieur du pays. Et les discours sont assez proches. Donc on se dit, si les gens de Bizerte doivent choisir entre 63 listes de partis que pour la plupart ils ne connaissent pas, il faut bien dire, il y a eu très peu de partis en Tunisie, il y a très peu de responsables politiques qui ont une envergure nationale, qui sont connus par les Tunisiens, que près de la moitié de ces 63 listes sont des listes indépendantes. Parce qu'en Tunisie, être indépendant des partis, c'est considéré comme une marque de liberté, c'est très valorisant. Donc vous avez déjà des partis que vous ne connaissez pas, qui ne se distinguent pas beaucoup par leur programme, avec des candidats indépendants, qui sont souvent des notables, qui tentent leur chance au scrutin proportionnel. Comment faire? C'est effectivement assez difficile. Et on sait qu'en Tunisie, il y a un certain désarroi des électeurs qui sont un peu perdus par ce foisonnement politique qui ne traduit pas toujours des choix tranchés, des arbitrages tranchés.
Alors oui, mais on dit oui, mais alors attention, vous vous êtes réjouis de cette révolution, mais les islamistes vont l'emporter.
Il est possible que les islamistes l'emportent, ils ont un parti qui est organisé, on sait que leurs réunions publiques sont très bien suivies, qu'il y a énormément de monde, qu'ils bénéficient quand même de l'aura du parti qui a été pourchassé par Ben Ali, dont les dirigeants sortent souvent de prison, dont certains ont été condamnés à mort, graciés, ont été torturés pendant des périodes assez longues. Ça permet effectivement de comprendre leur popularité. Et face à cette mouvance islamiste, qui n'est pas uniquement d'ailleurs le parti Ennahda, mais il y a des tas d'autres partis islamistes, et il y a des gens qui se présentent sous leur nom, mais dont on ne sait pas exactement s'ils sont islamistes, si c'est des restes du parti unique, qui cherchent à se trouver maintenant un nouveau visage, et qui se présentent comme indépendants, modérés, libéraux, favorables à l'État stratège, etc. Et puis, il y a des tas de coalitions qui existent autour de formations plus ou moins laïques, qui ne se proclament pas laïques, d'ailleurs, en général, parce que c'est un terme qui est assez mal vu en Tunisie, qui est perçu comme anti-religieux, dans un pays où la population est quand même très religieuse et pratiquante. Donc, l'un des clivages qu'on perçoit maintenant, c'est effectivement le clivage entre les islamistes et ceux qui ne sont pas islamistes, peut-être davantage que le clivage entre la gauche et la droite. Et il y a donc, d'une certaine manière, un paradoxe à voir ce pays qui a connu une révolution, enfin ce qu'on a appelé une révolution, peut-être une révolte, mais une révolte sociale, qui finalement va choisir entre des partis qui, pour la plupart, sont des partis libéraux, modérés, qui veulent des investissements extérieurs, qui veulent poursuivre le cours, en quelque sorte, économique de Ben Ali, mais avec moins de corruption et avec, évidemment, un régime qui est démocratique, mais sans qu'il y ait une transformation réelle du modèle économique que la Tunisie connaît depuis maintenant quasiment son indépendance.
Alors si les islamistes, j'y reviens, venaient à l'emporter, ceux qui autrefois disaient « oui, mais Ben Ali, bien sûr, mais enfin, c'est quand même un rempart contre l'islamisme », pourraient sourire quand même.
Oui, sauf que quand vous dites les islamistes, de quels islamistes s'agit-il ? Les islamistes, ce n'est pas non plus un parti structuré où tout le monde pense la même chose. Il y a des islamistes qui sont effectivement les purs et durs, qui effraient les quartiers un peu bourgeois du nord de Tunis. Et puis il y a d'autres islamistes qui ont connu les régimes autoritaires, qui ont connu la torture, qui ont connu l'exil et qui en ont tiré un certain nombre de leçons. Moi, ce qu'on m'a fait remarquer là-bas et qui m'avait frappé, c'était regarder le chef islamiste quand il a cherché l'exil. Où a-t-il été ? Dans un pays laïque, le Royaume-Uni. Regardez ce grand parangon du combat de la laïcité contre l'islam et l'islamisme, Ben Ali. Où est-il en ce moment ? En Arabie Saoudite. Bon, ben, ça oblige effectivement à réfléchir. D'autant que Ben Ali était lui-même quelqu'un qui utilisait, en quelque sorte, le registre religieux à chaque fois que ça l'arrangeait. C'était des gens de sa famille qui avaient créé une radio islamiste. Donc quand il s'agissait de maintenir la population en quelque sorte sous la voie de l'ordre et de l'obéissance, il pouvait tout à fait avoir recours à un registre religieux. Donc quand on dit que les islamistes vont l'emporter de toute façon s'il y a un système démocratique et que les partis se présentent, que les islamistes l'emportent, ça n'est pas plus scandaleux au fond que de voir les chrétiens démocrates l'emporter en Italie ou ailleurs comme ils l'ont fait pendant des années. Et de toute façon, on ne sait pas exactement ce que veulent les islamistes. Alors là, ça nourrit le discours habituel qui est justement, ils ont un double discours.
Voilà, double fond.
C'est-à-dire que quand ils s'adressent à des journalistes ou à des occidentaux, ils se présentent comme très ouverts, mais dans leurs réunions publiques, alors on a davantage le discours du « il n'y a qu'un seul Dieu » et « il faut que les institutions s'inspirent des règles religieuses ».
Serge Halimi, on cite toujours la Tunisie comme un pays musulman, on vient de le dire, mais où les femmes ont une place prépondérante et libre, etc. Quelle est la place des femmes dans cette histoire, dans ces élections ?
Prépondérante, je n'irai pas jusque-là,
mais
il est certain que sur ce terrain, la Tunisie est en avance par rapport, à l'Algérie, pour prendre... Oui. Ou à l'Égypte, et que les Tunisiens semblent en être tout à fait satisfaits. Le responsable d'Ennahda, donc le parti islamiste que j'ai rencontré, m'a dit lui-même que ses femmes travaillent, et il m'a dit qu'une de ses
femmes, ses épouses,
sa femme travaillait, et il m'a dit que, excusez-moi, que sa femme travaillait, il m'a dit qu'une de ses filles n'était pas voilée. Je suis pas sûr que pour lui ça ait été un motif à satisfaction particulier, mais il voulait bien montrer qu'en tout cas elles étaient libres d'agir comme elles l'entendaient. Il faut signaler que lors de ces élections, alors c'est un peu l'une des contradictions de la situation tunisienne, lors de ces élections, la règle de la parité a été imposée. Ce qui fait que quand vous présentez des listes, vous avez numéro 1, un homme ou une femme, et numéro 2, une femme ou un homme, dans cet ordre-là. Donc on peut se dire, c'est très bien. Le seul problème, c'est que comme il y a une autre règle démocratique qui a été imposée, qui est le scrutin proportionnel, et comme il y a une autre réalité démocratique qui est intervenue, qui est l'éclatement des listes, dans la plupart des circonscriptions, il y aura juste une personne qui sera élue par liste. Et dans 95% des cas, la tête de liste est un homme. Donc vous avez une règle, si vous voulez, qui est paritaire, et on dit c'est magnifique, mais avec d'autres règles démocratiques, on en arrive à ce résultat qui risque de ne pas être paritaire. Il est même vraisemblable que le plus grand nombre de femmes sera élue par Ennahda, Parce que dans la plupart des cas, c'est eux qui auront plus qu'un siège, qui auront deux ou trois sièges selon les circonscriptions, compte tenu du fait qu'on attend, qu'on pense que c'est le parti qui arrivera très largement en tête au soir de l'élection.
Alors, élection, une assemblée constituante qui va faire quoi dont le rôle va être quoi?
Elle peut tout faire. Elle a tous les pouvoirs. Là, pour le moment, on est sous un régime provisoire qui n'a aucune légitimité. Elle peut décider qu'il y aura une assemblée législative qui fera ceci ou cela, qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas de président de la République, que le mandat du président de la République durera 3 ans ou 7 ans. Elle a absolument tous les pouvoirs. Elle peut même déterminer les rapports entre l'État et la religion, le régime de propriété publique. Elle peut tout faire.
Dans votre reportage, quelqu'un vous dit « Oui, mais quand même, tout ça, c'est le thermostat est plutôt sur centre-gauche. »
Oui, parce que, effectivement, c'est ce que je vous disais, quand on interroge les responsables politiques, ils vous disent tous « Un régime libéral, l'économie de marché, mais avec davantage de justice sociale. » Rarement en évoquant des nationalisations. Ils n'évoquent pas les privatisations, mais ils n'évoquent pas non plus les nationalisations. Donc on a l'impression que sur ce plan, on reste au statu quo. Et surtout, la réaffectation des crédits publics des zones côtières vers l'intérieur des terres, parce que s'il y a une constante de la période Ben Ali, ça a été effectivement cette économie du tourisme qui a affecté l'ensemble des crédits vers les zones qui étaient déjà les plus développées, obligeant les populations qui vivent à l'intérieur des terres à se déplacer vers les zones côtières ou à choisir, entre guillemets, l'exil.
في شعبي اللي كان على حق وثور نشوف الناس تتقاتل تنهب وتغور ريت اصحاب والريح تنفخ وتدور حسيت بظلمة في الغفلة سرقت منا النور جبال الونيتي يطفل الدخوات صامدين واقفين كوم دي سولدا ضد الخونة والقعدة صاي تونس راهي حرة وعاد ظلم لازم يتعدى Demande aux martyrs, c'est pas facile de partir, il faut agir et foncer, finir ce qu'on a commencé. Liberté, solidarité, démocratie, à consommer sans modération en Tunisie.
Voilà, on continue avec le diplôme de ce mois d'octobre avec Alain Grech. Il y a un lien entre ce dont vient de parler Serge Halimi, la Tunisie, la révolution tunisienne qui s'est étendue ensuite à l'Égypte, et puis la Syrie aussi, et puis la position de la Turquie. Et tout ça a une influence assez importante sur le Proche-Orient, sur le rapport entre l'autorité palestinienne et Israël, où il y a eu ce mouvement des indignés. Je ne pense pas que les Israéliens emploient ce mot-là. Et ils appellent ça la tantifada quand même. Il y a le mot intifada, où il y a eu une place Tahrir aussi qui a été désignée au cours de ce mouvement. Mais ce qui a un peu étonné tout le monde, c'est la démarche de Mahmoud Abbas de venir demander auprès de l'Assemblée générale des Nations unies la reconnaissance de l'État palestinien, avec les réactions qu'on connaît, celles de Barack Obama, qui a plutôt déçu la société palestinienne, c'est peu de le dire. Étonnement quand même de voir cette démarche de Mahmoud Abbas et réaction prévisible évidemment des Israéliens et puis réaction pour le moins ambiguë du président français. Alain Grech, vous commencez par dire c'est quand même toujours demain, hein, l'État palestinien, c'est demain, c'est demain, c'est demain. en évoquant le mythe de Zénon.
Quand on voit les 10 dernières années, je rappelle en 2003 la feuille de route adoptée par le Quartet, c'est-à-dire les États-Unis, les Nations Unies, l'Union Européenne et la Russie prévoyaient un État en 2005. En 2007, le président Bush convoque une grande conférence à Annapolis et il prévoit l'État palestinien en 2008. En 2010, à l'Assemblée générale des Nations Unies, Obama fait un grand discours pour dire l'an prochain, nous aurons un État palestinien. Et aujourd'hui, il met son veto à cette... Et puis aujourd'hui, la feuille du Quartet, qui de nouveau dit il faut négocier, un calendrier d'un an. Le problème chaque fois, c'est que personne ne dit jamais qu'est-ce qui se passe si ce calendrier n'est pas respecté. Et on est toujours dans une espèce de logique. Bon, on laisse face à face les Israéliens et les Palestiniens. On leur dit, écoutez, débrouillez-vous tous les deux. Et quand il faut faire pression sur quelqu'un, les États-Unis et l'Union européenne font pression sur la partie la plus faible, les Palestiniens. Donc ça, c'est déjà une situation qui est bloquée depuis longtemps. Ce qui a changé, comme vous dites, c'est la révolte arabe qui crée un Proche-Orient en partie plus démocratique, donc en partie plus sensible aux opinions. Et on le voit bien en Égypte. Et qui fait que la poursuite de la politique Moubarak, qui était une espèce de couverture donnée à la politique américaine et israélienne, n'est plus possible. Et quel que soit le gouvernement égyptien qui viendra demain, il ne pourra plus faire ça. Et il faut dire que Mahmoud Abbas a perdu avec Moubarak quelqu'un qui l'aidait énormément, qui le poussait dans cette voie de la négociation. Et puis cette voie, elle est bouchée, c'est-à-dire que ça fait des années qu'on le sait, mais enfin, on voit aujourd'hui avec le gouvernement le plus à droite d'Israël et avec le refus des États-Unis et de l'Union européenne de faire pression sur Israël, que cette voie est bouchée. Et donc, ce qui est important dans le discours de Mahmoud Abbas, ce n'est pas seulement qu'il demande la reconnaissance de l'État palestinien, c'est qu'il aille au clash avec les États-Unis. C'est-à-dire, en fait, depuis 10 ans, la stratégie palestinienne, c'est de dire les États-Unis vont nous aider, on va trouver la paix, ils vont faire pression sur Israël à un moment ou un autre. Et là, il se rend compte que même avec une politique vraiment très modérée par rapport à une opinion palestinienne qui a des interrogations par rapport au Hamas, etc., le gouvernement israélien ne leur donne rien. Donc là, ils ont décidé d'aller au clash avec les États-Unis. Et d'une certaine manière, c'est la fin des accords d'Oslo tels qu'on les a connus. C'est-à-dire que c'est plus possible de reprendre les négociations dans ces conditions.
C'est intéressant de voir ce que les Palestiniens peuvent obtenir de cette démarche. Alors on dit oui, mais le statut qu'ils peuvent obtenir, même si c'est un peu, ce serait comme le Vatican, enfin c'est très un statut d'observateur, permettra aux Palestiniens de se présenter devant la Cour pénale internationale. Et ça, c'est quand même assez nouveau, c'est quand même un recours important par rapport à Israël. C'est peut-être quelque chose qu'Israël redoute ou non ?
Oui, tout à fait. Mais d'abord, les Palestiniens veulent aller devant le Conseil de sécurité. Ils ont aujourd'hui, semble-t-il, d'après ce qu'ils disent, 8 voix. Ils ont besoin de 9 voix pour obliger les États-Unis à mettre leur veto. Et là, ils se posent la question de qu'est-ce que va faire la France. La France et la Grande-Bretagne peuvent avoir un poids décisif dans ce vote. Et je crois que c'est important d'aller jusqu'à obliger les États-Unis à utiliser le droit de veto, parce que quelque part, ce qui se passe dans le monde arabe peut obliger les États-Unis à infléchir leur politique. Jusqu'à présent, on publie dans le monde diplomatique aussi un article sur les hésitations de l'administration américaine en 1948 à reconnaître Israël. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le département d'État qui disait « mais ça va créer un problème pour nos intérêts dans le monde arabe, notamment en Arabie saoudite ». Et puis ils se sont rendus compte que finalement ils pouvaient très bien reconnaître et appuyer Israël et n'avoir aucune conséquence économique. Et depuis 50 ans, on est dans cette situation, c'est-à-dire où les États-Unis soutiennent à 100% Israël, et de plus en plus l'Union européenne aussi, sans que c'est la moindre conséquence économique, ni même politique. C'est-à-dire que ça ne met pas en danger les relations que les États-Unis ont avec l'Arabie saoudite, jusqu'à présent avec l'Égypte, etc. Là, il va y avoir peut-être un choix possible.
Il y a eu des menaces de l'Arabie saoudite.
Oui.
Au cas où les États-Unis choisiraient le veto, ce qui est très probable, l'Arabie saoudite s'est manifestée contre.
Non seulement elle a dit contre, mais un des principaux
princes
saoudiens a dit que ça remettrait en cause la relation exceptionnelle entre l'Arabie saoudite et les États-Unis. Ça me semble peu probable, mais le fait qu'il l'ait écrit est quand même un signe justement du poids des opinions publiques et de l'importance de la question palestinienne pour tous les pays arabes. Maintenant, s'il y a utilisation du droit de veto, la Palestine peut aller aux Nations Unies, peut devenir un État, je crois que ça s'appelle État non membre. C'est un statut qui a un certain nombre d'avantages. D'abord, ça sera une victoire politique, évidemment, pour la Palestine. C'est-à-dire que du point de vue des Nations Unies, on est dans une situation où un État membre des Nations Unies, Israël, occupe un autre État, même s'il est non membre. Deuxièmement, ça donne la possibilité aux Palestiniens d'être membres à part entière de toutes les organisations internationales, UNESCO, etc. Et puis, comme vous avez dit, ça donne la possibilité d'être membre de la Cour, de ratifier les statuts pour la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Oui. La Cour internationale de justice de La Haye, elle a un poids, elle règle les différends entre États. Et pour régler les différents États, il faut qu'il y ait l'accord des deux États. Donc, comme il n'y a pas l'accord d'Israël, ça n'a pas de poids. En 2004, la Cour internationale de justice a fait un jugement sur le mur, demandant à tous les membres des Nations Unies, dont la France, de faire tomber le mur. Il n'y a pas eu de conséquence. En revanche, la Cour pénale internationale, elle peut inculper des individus, pas des pays, pour crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, si ces gens ne sont pas jugés dans leur propre pays. Et là, il y a des possibilités importantes, surtout quand on sait que les statuts de la Cour pénale internationale dit que le déplacement de population d'un pays occupant vers un pays occupé est un crime de guerre. C'est-à-dire la colonisation est un crime de guerre. C'est-à-dire que tous les Israéliens qui sont dans les territoires occupés et ceux qui ont organisé cette migration peuvent être inculpés de crimes de guerre.
C'est quelque chose que redoutent les Israéliens
Oui, c'est une des choses. Vous savez, il y a eu récemment toute une série de responsables israéliens qui ont eu peur d'être inculpés dans les différents pays européens parce qu'il y a une loi qui permettait de dire que là où, si des criminels ne peuvent pas être jugés dans leur pays, on peut les juger dans n'importe quel pays.
Oui.
C'est la juridiction Pinochet qui a permis d'arrêter Pinochet en Angleterre.
Oui.
Donc là, il y a vraiment une crainte de plus en plus grande. Mais là, si on passe à ça, parce que les décisions de la Cour pénale internationale, elles sont en principe obligatoires pour tous les États qui sont signataires de cette Cour pénale internationale. Nous reprochons à un certain nombre d'États signataires, par exemple, quand il y a eu l'inculpation de Omar el-Bashir, le président soudanais, de ne pas arrêter Omar el-Bashir quand il se rend ici ou là. Mais si demain un Israélien est inculpé par la Cour pénale internationale et se vient en France, normalement nous serons obligés de l'arrêter. Donc là, c'est effectivement un moyen de pression des Palestiniens. Et au-delà de ça, je dirais, c'est évident qu'il n'y aura pas de négociation, c'est-à-dire il n'y aura pas d'avancée vers une paix s'il n'y a pas de pression sur Israël. C'est-à-dire aujourd'hui, rien ne pousse Israël à signer un accord de paix. Ils ont une relative tranquillité du point de vue sécuritaire, ils ont une situation économique qui n'est pas
plutôt bonne.
Qui est plutôt bonne, avec le fait que vous pouvez être un Israélien et à peu près vivre 50 ans sans voir un Palestinien, même quand vous habitez Jérusalem, à part quand vous faites votre service militaire. Vous avez le soutien inconditionnel des Américains et depuis quelques années, un soutien de plus en plus inconditionnel des Européens.
Serge Halimi.
Juste sur les pressions internationales, il faut quand même signaler que pendant cette période qui s'ouvre, qui va être l'année électorale aux États-Unis, il n'y a pas la moindre chance que les États-Unis fassent quelque pression que ce soit sur Israël. Au contraire, ils risquent de durcir leur position à l'encontre des Palestiniens. D'ailleurs, récemment, le Congrès vient de voter la suspension d'une aide de 200 millions de dollars qui a été versée aux Palestiniens. Pourquoi ? Parce que les Palestiniens avaient commis l'offense irréparable de présenter leur candidature à l'Organisation des Nations Unies sans avoir l'accord d'Israël. Au moment précis où Israël, sans demander l'accord de qui que ce soit et en violant les obligations qu'elle doit suivre, vient d'annoncer de nouvelles colonies à Jérusalem-Est. Donc vous avez un système des deux poids, deux mesures qui devient caricatural. Alors maintenant, cette aide américaine qui a été suspendue, contre la volonté de l'administration Obama, elle pourrait être rétablie, mais vraisemblablement pour qu'elle soit rétablie, si on s'en fie aux précédents qu'on connaît, il faudra que ce soit Netanyahou lui-même qui intervienne auprès du Congrès américain pour dire aux élus américains, là, vous ne m'aidez pas, les gars. Parce que si la situation en Cisjordanie se dégrade, c'est moi qui risque de devoir gérer un certain nombre de choses dont je préfère ne pas m'occuper. Et cette situation s'est déjà produite précédemment. Vous avez des élus américains qui sont tellement extrémistes que parfois ils posent des problèmes à l'administration Obama et que l'administration Obama demande à Netanyahou d'intervenir auprès d'élus sur lesquels il a beaucoup plus d'influence que le gouvernement de son propre pays.
Juif, arabe, juif, arabe, arabe, juif, juif, arabe, ans.
continue avec le diplo du mois d'octobre. À ne pas manquer un long papier sur la situation en Inde, sur la guérilla Naxalite. Mais ce n'est pas ça dont on va parler. On va parler de nucléaire. Et on va parler là aussi d'un retournement récent des opinions à travers le monde, et notamment en France également, sur le nucléaire suite à la catastrophe de Fukushima, où on voit que l'Allemagne renonce, veut sortir du nucléaire, pas tout de suite, mais quand même assez rapidement. La Suisse, l'Italie, il y a tout un nombre de pays. On sait aussi que l'opinion au Japon est largement contre le nucléaire. Je crois que c'est 80-85% des Japonais qui se déclarent vouloir sortir du nucléaire, c'est ça ?
C'est ça.
Et puis la situation, plus précisément en France, avec un président de la République qui est très efficace pour défendre le nucléaire français. C'est, on peut dire, un militant, véritablement, du nucléaire français. Tristan Colloc.
Oui, tout à fait. Nicolas Sarkozy est à même de défendre le secteur nucléaire, car c'est un des piliers donc, de l'économie française. Il n'y a plus guère que trois filières qui soient intéressantes encore pour la balance commerciale française, donc l'automobile, évidemment, la défense et le nucléaire. Alors pourquoi Nicolas Sarkozy tente aussi de défendre cette industrie ? Tout simplement parce que l'État est encore partie prenante en tant qu'actionnaire majoritaire.
Vous entendez, ce n'est pas une alerte nucléaire, hein, c'est qu'il est midi et c'est les sirènes du quartier qui vrombissent.
J'ai pas de pilule d'iode avec moi, donc effectivement, je préfère que ce soit les pompiers. Donc voilà, pour toutes ces raisons, effectivement, le gouvernement actuel défend cette filière. Maintenant, pourquoi dans cette enquête on parle de fission au cœur de la filière ? Tout simplement parce qu'on a bien entendu en France la volonté, par injonction, on va dire, de la Commission européenne, d'une forme de désétatisation du secteur énergétique. Et pourtant, c'est là que se pose le gros problème, c'est que l'État est toujours actionnaire majoritaire. Donc ça entraîne des gros problèmes de cadrage au niveau politique. Maintenant, désétatisation, ça veut aussi dire une forme de privatisation et donc une lutte entre industriels pour s'accaparer la manne de la production électrique d'origine nucléaire. Bien entendu, dans le cadre de la dérégulation, on sait très bien, avec l'exemple japonais, que cette politique n'est pas sans effet, notamment d'un point de vue sécuritaire. Les accidents tels qu'on a pu connaître à Fukushima sont liés à un sous-investissement chronique, notamment en ce qui concerne la maintenance, bien sûr, sans parler de la course à la productivité et des pertes de compétences, puisqu'en utilisant des sous-traitants et des sous-traitants de sous-traitants, l'entreprise EDF elle-même est incapable de savoir comment réussir à maintenir en l'état les centrales.
Reste dans ce domaine la question du stockage des déchets et puis de l'éventuel démantèlement le moment venu. Et on voit que ce démantèlement pose des problèmes énormes et des coûts faramineux.
Des coûts faramineux, effectivement, puisque pour l'instant, on n'a aucune compétence en termes de démantèlement.
Pas mal cette phrase-là. Pour l'instant, on n'a aucune compétence en termes de démantèlement. C'est pas mal.
C'est-à-dire que le seul cas important qui est traité à l'heure actuelle, c'est donc le cas de Brennilis, avec des coûts et des surcoûts importants. Alors, bien entendu, EDF argue toujours que c'est le premier chantier, donc on n'a pas les compétences pour les traiter, et c'est aussi pour ça qu'il y a surcoût. Mais bien sûr, une fois qu'on démantèle, si on est capable de le faire, donc toutes ces questions ne sont pas résolues à l'heure actuelle et occasionnent beaucoup d'interrogations sur le coût global du nucléaire. Pour l'instant, le prix de revient de base de l'électricité qui est fixé par la Commission de régulation de l'énergie fixe donc le prix du mégawattheure à 30,90 €. Or, d'après les derniers chiffres communiqués par EDF, en prenant en compte le démantèlement et le stockage des matériaux contaminés, on arrive à un chiffre de 46 € par mégawattheure. On voit que c'est un différentiel qui n'est pas négligeable. Et EDF avoue que dans le cas de l'EPR, le coût de revient de mégawattheure pourrait monter jusqu'à 80 €. Donc l'argument qui était mis en avant donc, par les pro-nucléaires pour dire le nucléaire c'est fantastique, indépendance énergétique et coût de l'électricité à la baisse est complètement mise à mal par ces questions donc, de démantèlement et de stockage des déchets.
Alors voilà, on est devant l'INB 28, l'installation nucléaire de base, plus familièrement l'EL4, hein, c'est ça, comme le réacteur EL4 à eau lourde numéro 4, donc, qui a été installé ici à Brennilis.
Là-bas, si j'y suis, 29 avril 2011.
Alors, Michel Marzin, vous avez travaillé ici à cette centrale, hein, vous étiez technicien, c'est ça?
Oui, enfin moi je ne l'appelais pas comme ça, c'était le site des monts d'arrêt qui devait contenir deux centrales nucléaires.
Alors là, la question du démantèlement, là, justement là on voit un bras de grue qui s'est élevé le long du réacteur, hein, du bâtiment réacteur, et il y a un ouvrier qui est tout en haut là en train de, boucher, pas, de ouais, boucher un trou.
Tu vas être obligé de donner un secret de famille, là. Il sait pourquoi.
Moi, Gérard Bonvon.
Alors, qu'est-ce qu'il fait là-haut? Alors, il y a un ouvrier qui est là-haut. C'est assez haut perché.
Une cinquantaine de mètres, hein, 50.
Oui. C'est toi, Michel, qui nous disait qu'elle fuyait quand on voyait des rustines, parfois, et que ouais. Vous trouviez les trous en mettant parfum de rose, c'est pas
ouais,
ça
ouais, la
hein,
rose,
tu
ouais.
nous avais raconté
on
ça.
On injectait du parfum de rose à l'intérieur. On avait des copains qu'on appelait les sniffers, qui faisaient le tour. Et donc, il cherchait le parfum de rose et quand ça sentait vraiment beaucoup la rose, eh bien, hop, on mettait une rustine.
Alors aujourd'hui, ici, c'est la deuxième manche, quoi. Hein, c'est la manche du... Il y a eu la première manche, c'était la construction, donc lutter contre la construction. Et maintenant, il faut lutter contre le démantèlement, la déconstruction. Donc 30 ans plus tard, c'est ça? Il faut maintenant se battre à nouveau, mais cette fois-ci pour limiter les dégâts, quoi. C'est ça.
Pas faire n'importe quoi.
Voilà, je pense à Michel que c'est plutôt ce qu'il faut dire. On ne peut pas lutter contre le démantèlement des centrales nucléaires parce qu'il faudra toutes les démanteler un jour ou l'autre. Hein. Mais lutter pour que ça se fasse dans des bonnes conditions, proprement, sans risque pour la population, pour les travailleurs qui sont dedans, quoi. Puis, ma foi, là, on verra la vérité sur le prix du nucléaire parce que ça va chiffrer. Hein.
1 000 milliards de dollars. C'est l'ordre de grandeur qui a été donné et qui probablement est sous-estimé encore.
Pour démanteler ce qui existe. Donc
ce qui existe,
c'est
oui.
pour aller de l'avant ou arrêter, quoi qu'il arrive.
Parce qu'il arrive, il faut provisionner cette somme-là. Mmh. 1 000 milliards de dollars, on en est loin. Hein. Donc en fait, on reporte sur les générations qui suivent.
On continue et on finit avec le papier. Chaque mois, il y a au moins un papier auquel je ne comprends absolument rien dans le monde diplomatique. Et ce mois-ci, c'est le papier de Laurent Cordonnier sur la Grèce. Or, quand même, je comprends à peu près ce qui se passe en Grèce. Je compatis au malheur des Grecs. C'est hallucinant ce qui arrive à la population. Alors, Laurent Cordonnier, éclairez-nous.
Alors, j'ai relu ce papier, effectivement, il est difficile. Alors, ce qui crée la difficulté, tout de même, c'est qu'on aurait bien aimé, dans ce papier, se dire, bon, ben, où on en est vraiment maintenant, concernant le cas de la Grèce, c'est-à-dire un papier espèce de diagnostic, mais diagnostic qui doit forcément être un petit peu prospectif, parce que pour avoir le bon diagnostic aujourd'hui, il faudrait pouvoir dire aussi, dans la foulée, où on va et comment ça va se terminer. Or, c'est ce qu'on aimerait déjà savoir. Ce qui est sûr, c'est que ça va bientôt se terminer, mais on ne sait pas exactement de quelle manière. Donc, il était difficile de positionner le papier, et en particulier parce que ça fait un certain temps dans le monde diplomatique qu'on annonce que ça va mal se terminer. Mais bon, maintenant...
C'est même, ça dure depuis 50, combien, 60 ans, bientôt. Ça va mal finir. C'est le journal qui annonce la fin du monde.
Et on annonçait quand même aussi, enfin, on énonçait un certain nombre de solutions qu'il aurait fallu prendre, mais on les énonçait il y a un an et demi, 2 ans. Et on évoquait plus que sérieusement le défaut de la Grèce comme étant une solution. Or, il y a 2 ans...
Le défaut, c'est-à-dire que la Grèce ne rembourse pas.
Voilà, que la Grèce ne rembourse pas tout ou partie de sa dette. Au moment où on...
Ça, c'est possible, c'est une bonne solution.
C'est justement ça le problème. C'est qu'au moment où on l'énonçait, il y a encore un an et demi ou 2 ans, c'était plutôt une bonne idée. Et c'était plutôt une bonne idée si c'était mené de manière, disons, un petit peu planifiée, ordonnée, pourquoi pas négociée. Mais maintenant que les dirigeants européens n'ont fait qu'avancer à reculons pendant 2 ans, et n'ont fait que examiner les plans de sauvetage au moment où l'urgence était presque catastrophique, cette solution, elle aura lieu. Elle aura lieu, nécessairement. Ça va se terminer comme ça, d'une manière ou d'une autre. Mais ce ne sera plus une bonne solution. C'est-à-dire qu'intervenant comme au paroxysme de la crise, comme étant la seule issue possible, finalement, ce ne sera pas une issue rédemptrice, ni pour la Grèce, ni pour l'Europe. Et nous, les gens qui avons dit ça depuis 2 ou 3 ans, on est encore convoqués pour nous dire « donnez-nous encore une bonne idée ». Mais il n'y en a plus de bonnes idées.
La Grèce doit ses sous à qui ?
Alors, au départ, c'était plutôt au détriment des banques et des fonds d'investissement.
Ça nous va.
Ça nous va très bien. Mais au fur et à mesure des plans de sauvetage, les porteurs de la dette grecque sont de plus en plus des pouvoirs publics, européens ou mondiaux. C'est-à-dire
ça nous va moins bien.
C'est le Fonds européen de soutien financier qui rachète progressivement sa dette à mesure qu'il faut renouveler les titres. C'est le FMI. Et puis c'est la Banque Centrale Européenne qui achète des titres directement sur le marché secondaire. Ma conviction, c'est que si la Grèce ne faisait pas défaut, ce qui devient de plus en plus improbable, c'est qu'à la fin, de toute façon, sa dette sera détenue à 100% par les pouvoirs publics. Donc ça va soit se terminer par un défaut retentissant de la Grèce, dans l'urgence, la précipitation et le malheur, soit on trouve le moyen de dire comment la puissance publique européenne va faire en sorte de détenir l'intégralité de cette dette et imposer, entre guillemets, à la Grèce des taux d'intérêt qui deviendraient très raisonnables. Or, cette solution là paraît pas possible, enfin, vu ce que se sont dit les dirigeants européens ces derniers temps. Ils ne veulent pas augmenter les dotations du Fonds européen de soutien financier. Quant à discuter la question des taux d'intérêt, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Donc la situation pour la Grèce, on est en train de passer le seuil d'asphyxie. D'asphyxie politique, sociale et économique, et qui va se passer dans les pires conditions, parce qu'il n'a pas été examiné de manière un petit peu planifiée, raisonnée, anticipée.
Les pires conditions, c'est-à-dire comment vont vivre nos amis grecs ? Est-ce que ça se limite à la Grèce, votre catastrophe-là ?
Alors, ce sera mauvais pour les Grecs, et ce sera mauvais pour les Européens. Alors, pour la Grèce, qu'est-ce qui peut se passer ? Bon, si elle fait vraiment défaut sur sa dette, elle risque d'être poussée en dehors de la zone euro. Enfin, j'imagine mal les dirigeants européens accepter de faire ce qu'ils n'ont jamais fait, c'est-à-dire d'admettre une espèce de mouton noir au sein de la zone euro qui créerait un précédent. Ceci serait un très mauvais exemple pour l'Italie et l'Espagne et ne rassurerait absolument pas les marchés financiers. Or,
et les Irlandais aussi pourraient faire ça aussi.
Les Irlandais aussi. Et on est toujours sous cette dictature des marchés financiers. Bon, je crois qu'on est là plongé dans une perspective catastrophique parce que tout est intervenu à contre-temps et pour des raisons qui sont multiples. Mais l'une de ces raisons, c'est que nous avons toujours des dirigeants européens qui sont de furieux doctrinaires et qui n'ont été capables à aucun moment d'imposer des solutions que je qualifierais d'antilibérales, c'est-à-dire obliger les uns et les autres à faire des choses que les marchés ne font pas spontanément. Renoncer pour une partie à des créances bancaires, mais le faire de manière beaucoup plus anticipée que ça a été fait, et de manière beaucoup plus nette pour confiner le problème à la Grèce.
Ce que vous dites là, ça risque d'arriver au Portugal, à l'Irlande, à l'Espagne, ou c'est des scénarios différents ?
Oui, alors on a commenté le malheur pour les Grecs, on peut commenter le malheur qui peut arriver au reste de l'Europe. Parce que.
Ah bon, nous aussi ? Généralement, les nuages s'arrêtent aux frontières en France.
Oui, non, je ne parlais pas de la France, effectivement. En France, ça s'arrête toujours aux frontières. Je parle du reste de l'Europe. Bon. Alors, qu'est-ce qui peut nous arriver ? C'est déjà parti, hein, le coup est déjà parti. C'est-à-dire que la méfiance des marchés financiers s'est étendue à la dette espagnole et puis ensuite à la dette italienne. Et évidemment, si se précipite le scénario catastrophe du défaut de paiement ou de la sortie de la zone euro de la Grèce, ça va immédiatement faire flamber les dettes, enfin les taux d'intérêt sur les dettes publiques italiennes et espagnoles. Dans ces cas-là, il faudra se demander comment le Fonds européen de soutien financier pourra soulager ces pays-là en leur évitant de faire appel aux marchés financiers et de s'endetter à des taux exorbitants. Donc ça va charger énormément le Fonds européen de stabilité financière. Est-ce qu'il a suffisamment d'autorisations d'emprunt pour intervenir ? J'en doute. Si on élargit dans la panique ces autorisations de financement, on va se dire comment les autres États qui sont garants de ce financement peuvent même eux-mêmes encaisser le choc. Et les taux d'intérêt vont monter, y compris sur les dettes publiques des pays qui sont encore réputés sains. Je donne un tout petit exemple. La faillite de Dexia ces jours-ci,
et son démantèlement a des répercussions immédiates sur les taux d'intérêt de la France. Pourquoi ? Ben parce que cette banque, qui a prêté en partie à la Grèce, mais qui a aussi des titres...
Beaucoup de villes françaises et de communautés, de communes et de...
Il y a aussi beaucoup d'actifs pourris dans son bilan. Il va falloir la renflouer, quelle que soit la solution qui sera prise, y compris si elle est totalement démantelée. Et donc l'État et le gouvernement français devront sortir de l'argent pour renflouer cette banque.
C'est-à-dire nous.
C'était nous. Oui. C'est nous.
Dès que ça, c'est nous.
Et donc les marchés financiers se disent, ben, ça va encore aggraver le problème de la dette française. Notre écart de taux d'intérêt vis-à-vis de l'Allemagne s'est tendu en quelques jours, 2-3 jours, uniquement à cause de cette affaire. Donc il n'y a pas de bonne solution, parce que tout ceci va se répercuter sur les banques, et il faudra sauver les banques. Bon. Et sauvant les banques, il faudra y mettre des gros paquets d'argent, qu'on les nationalise, qu'on les communalise, qu'on les coopérativise, qu'on les partenarialise, peu importe, il faudra mettre de très gros paquets d'argent, et ceci aura des répercussions sur les finances publiques de l'ensemble des pays européens. Donc on pourrait dire le réceptacle de la crise, ça va être toujours et nécessairement l'argent public.
Il y a quand même une bonne nouvelle pour quelques-uns. C'était une enquête publiée il y a quelques jours par le New York Times qui évoquait tous ces spéculateurs qui achètent la dette grecque à 30% de sa valeur et qui attendent que la Grèce soit renflouée pour revendre cette dette à 60 ou à 70% de sa valeur. Cet argent qui est perdu, il est gagné par quelques-uns.
Tu as tout à fait raison de le souligner, Serge. C'est pour ça qu'il faut dire à cet endroit-là que si la Grèce honorait sa dette jusqu'au bout, d'une certaine manière, il y aurait une injustice absolument phénoménale qui serait commise.
Bon, vous avez raison, la meilleure solution, c'est le naxalisme. Merci à tous. Voilà, merci à tous, Serge Halimi, Alain Grèche, Tristan Coloma et Laurent Cordonnier. À lire ou à relire les 100 clés du Proche-Orient d'Alain Grèche et Dominique Vidal aux éditions Fayard, qui vient d'être publié dans une nouvelle version. Et puis, demain, une journée de manifestation interprofessionnelle et nationale est annoncée pour protester contre les politiques d'austérité. À Paris, des syndicats appellent à une manif au départ de la place de la République à 14h. Vous risquez de nous y retrouver. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, où vous avez une vidéo sur la rencontre avec Frédéric Lordon à la fête de l'UMA, qui a été filmée par les mutins de Pangée. À la technique aujourd'hui, Dofar Guéride et Jean-Philippe Jeanne. Bertrand Chometon et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touillez. Et Grégory Salomonovitch attend vos messages sur le répondeur de la passe. Je suis au 0156 40 37 37.